D'accord. Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question. Est-ce que les événements d'aujourd'hui, d'accord, est-ce que c'est Gog ou Magog ou pas? Alors, ils m'ont posé la question, est-ce que c'est Gog ou Magog ou pas? Qu'est-ce que vous répondez, messieurs? Oui, non, on ne sait pas. En tout cas, moi aussi, je ne savais pas. Je ne suis pas prophète. Qui peut savoir est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est Gog ou Magog ou pas? On ne sait pas. Avant, une chose est sûre et certaine. C'est que Chazal nous raconte, Chazal, Chachamim nous raconte, que à l'époque où Sanhérib, vous savez que c'est Sanhérib? Sanhérib, c'est un roi qui est venu faire le siège de Jérusalem. En quoi? En combien? Moins 722? Bon, moins 722. Et le roi donc le roi de Yehuda, le roi de Jérusalem de l'époque, c'était qui? C'était Chézkiyahou Améler. C'était un des petits-fils de David Améler. Là-bas, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il voulait faire à ce moment-là, il voulait faire Chézkiyahou Melech HaMashiach et Sanhérib Gog ou Magog. C'est-à-dire que le scénario de la fin des temps devait se réaliser à cette époque-là. Sanhérib Gog ou Magog et Chézkiyahou Melech HaMashiach. Qu'est-ce qui s'est passé, nous dit Chazal? Du fait que Chézkiyahou n'a pas dit de Shira, c'est quoi, il n'a pas dit de chant de louange à Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il a annulé, il a dit, tant pis, ça ne sera pas lui le Mashiach et ça ne sera pas lui Sanhérib. En réalité, il a oui dit, vous savez, mais il a dit après, il aurait dû dire avant. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Chazal-là? Qu'en réalité, à chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il peut réaliser le scénario de la fin des temps. Donc, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin des temps? C'est dans nos mains. C'est dans nos mains. Si nous sommes méritants, Bezrat Hashem, alors quand je vois où il pourra faire de cette guerre, et souhaitons que cette guerre-là reste une petite guerre comme elle est, et qu'elle ne s'élargit pas, et que Bezrat Hashem, le Mashiach, il vient très bientôt. Maintenant, malgré tout, il y a marqué qu'à la fin des temps, il y a ce qu'on appelle Révélé Mashiach. Révélé Mashiach. D'accord, on attend le Mashiach. Alors, il faut savoir que ce sera une période qui sera extrêmement difficile. Si bien sûr on n'est pas méritant. Si on est méritant, la période sera beaucoup plus facile à passer. Avant, malgré tout, il y a une notion qui s'appelle Révélé Mashiach. Qu'est-ce que c'est Révélé Mashiach? En français, c'est un peu difficile à traduire. Ce sont les douleurs de l'accouchement du Mashiach. Qu'est-ce que c'est les douleurs de l'accouchement du Mashiach? Tov, le Rav Shaya, il a certainement fait un cours sur ça. Il en fera peut-être encore un autre. La question, elle est, c'est comment se sauver de ces douleurs-là? D'accord? Quelle est la péridurale? C'est ce que c'est la péridurale? D'accord, une femme, quand elle doit accoucher, on lui fait une piqûre péridurale, ça lui permet d'accoucher en douceur. Alors, est-ce que Chazal nous ont prévu, est-ce que Hachem nous a prévu une péridurale pour nous? Oui? Qu'est-ce que vous dites, monsieur?
On espère.
Alors, Bémet, oui, il y a marqué qu'il y a une péridurale. Alors, pour commencer, je vais parler de beaucoup de choses, on va s'éloigner, on va ouvrir beaucoup de parenthèses. Alors, essayez de l'arzicroche, comme on dit, de faire attention à ce qu'on dit. La Gemara dans Maseret Shabbat, il y a une très très jolie Gemara. Alors, cette Gemara, hein, faut bien la comprendre, c'est pas du pshat, c'est du drush. C'est quoi du drush? Elle va s'amuser avec les mots. La Gemara le raconte. Amarle Rabbanan le Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbanan, donc les Talmidim, ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi, à tout d'Argdake Aïdna le Bemidrasha. Aujourd'hui, ils sont arrivés des petits-enfants au Bet Amidrash. Et ils ont dit des choses, des paroles, que même à l'époque de Yoshua bin Nun, on n'a pas entendu des paroles aussi, de telles paroles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Dardekés, c'est quoi les Dardekés? C'est les petits-enfants qui apprennent le Alephbet au Heider, au Gan. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Alephbet. C'est quoi Alephbet? Aleph. Le mot Aleph, qu'est-ce qu'il veut dire? Aleph, c'est un langage de Ulpan, de fait de apprendre. Aleph, bet, c'est quoi? C'est Bina. Le bet représente la Bina. C'est quoi la Bina? C'est la connaissance, le savoir. Alors ils ont dit comme ça. Aleph, Bina. C'est quoi Aleph, Bina? Apprends la Bina. Apprends la Torah. Ensuite, les lettres qui suivent. Gimel, Dalet. C'est quoi Gimel, Dalet? Gimel, c'est un langage de Gomel, de fait de transmettre, donner. Dalet, c'est quoi? Ça représente les dalim, les pauvres. Donc, gomel dalim, donne aux pauvres. Donc, aleph bet, aleph bina, apprend la Torah. Gimel dalet, donne aux pauvres. Maïtahama, non, pardon. Maïtahama peut juste créer des guimel et gabedalet. Pourquoi est-ce que le pied du guimel, il va vers le dalet? Vous savez comment on fait un guimel? Oui. Le guimel, il a un pied, comme ça en avant, qui va vers le dalet. Vous savez pourquoi? Parce que chez Kendarkoshel Gomel Chassadim, la route Sacharidalim. Parce que c'est l'habitude du Gomel Chassadim, c'est quoi Gomel Chassadim? De celui qui fait la bienfaisance, de courir après le pauvre. D'accord? En réalité, ce n'est pas le pauvre qui doit courir après le riche, mais c'est le riche qui doit courir après le pauvre. D'accord? Alors, et pour quelle raison Maïtahame Mahader a payé des dalettes Migimel? Pourquoi est-ce que le dalet, il tourne le dos au guimel? Vous savez que le dalet, sa face, elle est en avant. Et elle donne le dos au guimel. Pourquoi? Delitan le betsnia. Parce que le riche, le guimel, celui donc qui donne, il lui donne au pauvre betsnia. C'est quoi betsnia? Discrètement, en cachette. Ça, il vient pas devant tout le monde, il dit, regarde, moi je te donne de l'argent, moi je te donne de la zdaka. Non, il vient discrètement, il lui donne de façon discrète. Pourquoi? Qui ridelo l'irsaf miné, afin qu'il n'ait pas honte, qu'il n'ait pas honte, qu'il ne soit pas humilié de lui. Ensuite, donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ensuite, He, Vav. C'est quoi Evav? Evav, Zeshemoshe Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le nom de Dieu. Oui, on dit là-bas dans la kafot de Oshana Rabba, Anivahu Oshiranam, Anivahu, ou c'est quoi? Evav. Evav, c'est le nom de Dieu. Ze Akadosh Baruch Hu. Zain Retetiud Kaflamed, que ça veut dire Zain Retetiud Kaflamed. Alors, Vei Mataosechen, c'est-à-dire si tu étudies la Torah et tu gomel dalim, tu donnes Atzdaka aux pauvres, qu'est-ce qui va se passer? Hevav, savoir Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Zain Retetiud. Vei Mataosechen, Akash Bohu. Zain, c'est quoi Zain? Zanotra. Zan, c'est quoi Zan? Il va te nourrir. Vechenotra, et il va te donner de la grâce. Tête, c'est quoi tête? C'est tav, enfin tête, pas tav, tête. Ou metiv lecha, et il te fera du bien. Venoten lecha, yerusha, et il te donnera. Donc le yud, c'est quoi? C'est yerusha, il te donnera un héritage. Vekosher lecha, et il te fixera sur la tête, quoi? Keter le'olam haba, d'accord? Donc kaf, c'est pourquoi? C'est le keter, le'olam haba, le lamé, d'accord? Etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que celui qui veut, on ne le dit pas encore ici, on voit que le fait donc d'étudier la Torah et l'igmol d'alim, d'aider les pauvres, de donner la zaka aux pauvres, alors qu'est-ce que ça fait? Ça emmène une bracha, une bénédiction extraordinaire, que celui qui fait ça, alors quand je vois au roux, il va le nourrir, il va lui donner de la grâce, et il va lui donner un héritage sans fin. D'accord. Maintenant, on va faire un petit détour. Autre part, dans Megillat Ruth. Vous savez c'est quoi Megillat Ruth? Megillat Ruth là-bas où donc un passage de la des comment on appelle ça en français? Les hagiographes. D'accord? Où là-bas on raconte l'histoire de Ruth. Ruth à Moavia. Avant de raconter un petit peu l'histoire de Ruth, vite fait, comme ça sur un pied. Pourquoi est-ce que cette Megillat, je me suis trompé, c'est pas celui-là, c'est le deuxième. Il est là. On va prendre en français, ce sera plus facile pour nous. Pourquoi est-ce que le livre de Ruth a été écrit, monsieur, vous savez pourquoi? Parce que de Ruth, dans le livre de Ruth, on n'apprend aucune halakha. Il n'y a aucune halakha dans le livre de Ruth. Pourquoi alors il a été écrit? Pourquoi? On n'entend pas. Parce que le roi David était contesté. Alors peut-être, il y a sûrement ce que tu dis est certainement vrai, mais ce n'est pas, on va dire, la raison officielle. Pour le chesed. Alors là-bas, ici, la chaza nous dit, pour quelle raison Megillat Ruth a été écrit? Alors j'ai écrit ici. Les schémas de Megillat Ruth, d'accord, uniquement afin de nous enseigner, attends où c'est écrit, voilà, le dira Srachab chez Gomel Chassadim, afin de nous dire, de nous dévoiler le salaire des Gomel Chassadim, de ceux qui font du chesed, d'accord, celui qui va avoir un peu une idée de tous les bienfaits qu'Akash Baruch Hu nous réserve lorsqu'on fait du chesed, de la bienfaisance envers les autres, alors il n'a qu'à ouvrir le livre de Ruth là-bas et il va voir. Le salaire des Gomel Chassadim. D'accord? Alors, lorsqu'on lit l'histoire, pour résumer vite fait l'histoire de Ruth, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qui s'appelait, comment il s'appelait? Elimelech. Elimelech, c'était un homme qui était très riche, C'était le grand de la génération. Et qu'est-ce qui s'est passé? La famine, elle a éclaté en Eretz Israël. Et là-bas, Chazal, ils expliquent, ils racontent qu'il était très riche et il avait peur qu'on le dépouille, que étant la personne, la seule personne qui puisse nourrir tout le monde, qu'est-ce qu'il avait peur que, bon, qu'il allait devoir dilapider tout son argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa famille, à savoir sa femme et ses deux fils, et ils sont partis. Où est-ce qu'ils sont partis? Là-bas, à Moab. Moab, c'était un peuple, comme on verra plus tard, qui était un peuple qui a été maudit par Dieu. Maintenant, qui sont ces deux fils? Vous connaissez le nom de ces deux fils? Mahlon et Kilion. Qui a dit ça? Bravo. Mahlon et Kilion. Donc, j'avais deux fils, Mahlon et Kilion. Donc là-bas, on voit la Megillat Ruth et nous raconte que qu'est-ce qui va se passer? Les affaires de Elimelech vont, en français, comment on dit, péricliter, comme ça on dit? Oui, joliment dit, péricliter. Et il va commencer à perdre tout son argent. Enfin, attendez, avant ça, qu'est-ce qui va se passer? Mahlon et Kilion, ils vont se marier avec deux femmes moabites. D'accord? Deux femmes, apparemment non-juives, apparemment. Le Zohar, il dit à Emmet qu'ils les ont convertis, est-ce que la conversion était valable et tout? Bon, c'est toute une histoire... en soi. Et qu'est-ce qui va se passer? Les affaires donc de Elimelech vont péricliter, il va perdre tout son argent. Mis à part cela, il va mourir et ses deux fils aussi vont mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Naomi, donc la femme de Elimelech, va se retrouver seule avec ses deux belles-filles, des deux brues en français. Ses deux belles-filles. D'accord? Comment s'appelaient ces deux belles-filles? Vous savez? Une, elle s'appelait Ruth et l'autre, elle s'appelait Orpa. Bravo. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Naomi n'a plus rien. Elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus rien du tout. Ses enfants, son mari sont morts. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle décide de retourner. Elle a entendu dire que la famine en Eretz Israël était terminée. Donc, elle va décider de revenir en Israël. Et là, ses deux belles filles vont vouloir l'accompagner. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Naomi dit, pourquoi vous voulez m'accompagner? Vous êtes des filles de princesse. À quoi sert de venir avec moi? Vous voulez que... Vous croyez que je vais avoir encore d'autres enfants et vous allez vous marier avec mes enfants? Et j'ai plus d'enfants, je suis déjà une vieille femme. Qu'est-ce que vous cherchez de moi? Ça sert à quoi? Rentrez chez vous, vous êtes encore jeune. Là-bas, Ruth avait, on sait, hors pas, je sais pas, mais certainement le même âge. Ruth avait, vous savez quel âge? 40 ans. Elle avait 40 ans. Donc elle était encore jeune, elle pouvait se marier. Et bon, elles insistent, non, on veut rester avec toi. Oui, non, oui, non, oui, non. À la fin, Orpa décide de repartir. D'accord? Vous savez ce qui est arrivé à Orpa quand elle est repartie? Elle s'est mariée. Bon. Elle a fait bon rencontrer une autre occasion. En tout cas, elle est partie dans son pays. Et Ruth, non, elle a voulu rester avec Naomi. Elle dit non. Où tu iras, j'irai. Où tu mouriras, je mourirai. Je veux rester avec toi. Je ne veux pas te quitter. Et on voit Bémet que Naomi, elle a insisté pour la laisser partir. Et Ruth, elle voulait malgré tout rester. Et donc elle a accepté. Et Ruth, elle est venue l'accompagner. Pourquoi est-ce qu'elle a accompagné? D'accord, Chazal nous enseigne, là-bas les versets nous enseignent, uniquement afin de faire du bien à sa belle-mère. Qu'est-ce que c'est, dit Ruth? Dit ma belle-mère, c'est une dame âgée maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Elle va rentrer dans son pays, qui va l'aider? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi je suis encore jeune, je vais aller, et je vais aller l'aider, je vais m'occuper d'elle. D'accord, donc qui est la première gomel d'Alim, la première gomel chassadim de l'histoire? C'est qui? C'est Ruth. D'accord? Maintenant, le deuxième personnage qui fait donc du chesed? Alors on va raconter l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Ruth et Naomi vont retourner en Eretz Israël. Et là, il faudra bien manger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, Ruth, aller sur les champs, là-bas où il y avait, donc c'est l'époque de la moisson. Et elle va aller, comme on dit en français, elle va aller glaner. Très bien. Voilà, elle va aller glaner. C'est quoi glaner? Lorsque on fait la récolte, si un épi tombe pendant la récolte, alors à qui on n'a pas le droit de ramasser, on devait le laisser aux pauvres. Et donc les pauvres marchaient derrière les, comment ils s'appellent, les moissonneurs, d'accord? Et ils ramassaient comme ça donc des épis de blé. Et donc Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait aussi pareil, elle est partie, elle a commencé à ramasser les épis de blé derrière les moissonneurs. Qu'est-ce qui va se passer? Va arriver dans le champ, qui? Le propriétaire du champ. Qui est le propriétaire du champ? Boaz. Ah, Boaz, qui était Boaz? Alors Boaz, c'était en réalité, il était de la famille de Elimelech. C'était son, je l'avais écrit, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'était sa famille. Vous pouvez vous dire qui c'était ou pas? On ne se rappelle plus. Son cousin ou de la famille, il était. On ne se rappelle plus, on va voir après. Et lorsqu'il va voir cette jeune fille là, il va demander, mais qui est cette jeune fille? On va lui dire, ça c'est la jeune fille qui est venue avec Naomi. Pourquoi est-ce qu'il va la remarquer? Vous savez pourquoi il va la remarquer? Parce qu'elle était tsanoua, elle avait un comportement pudique. D'accord? Elle, lorsqu'elle se baissait, elle ne se baissait pas comme ça, elle pliait ses jambes, afin de bien cacher ses jambes, de ne pas avoir une tenue indécente, et comme ça elle ramassait les blés. Il est parti la voir, il était extrêmement ébloui de tant de pudeur. Il va commencer à lui parler, il va lui demander qui elle est, elle va lui raconter, donc ils vont discuter ensemble. En tout cas, là, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire plein de choses, entre autres. Alors le verset, il est là, je vous l'ai trouvé, c'est verset, enfin, chapitre Bet, verset Yudalet. Va yomer la boaz, let a ochel geshi alom. Alors sur le mot gauchi, alors je vous dis en français, à l'heure du repas, Boaz lui dit, approche et mange de nos aliments. Sur ce verset-là, apparemment lorsqu'on lit comme ça, il n'y a pas grand-chose. Si vous ouvrez le Targum, la traduction araméen sur ce verset-là, alors on voit des choses extraordinaires qui sont écrites. Il y a tout un truc extraordinaire. En tout cas là-bas, à ce moment-là, qu'est-ce que Boaz va lui dire? Il va lui dire plein de choses. Alors, avant d'expliquer ce qu'il va lui dire, il faut que je vous explique un petit peu une autre notion. On a dit que Ruth, elle venait de quel peuple? De Moab. Maintenant, Moab, au niveau de la halakha, ils ont un statut très spécial. C'est quoi le statut qu'ils ont? C'est qu'ils ne peuvent pas se... Alors attends, non, c'est pas qu'ils peuvent pas se convertir. Ils peuvent se convertir au judaïsme, mais ne peuvent pas se marier avec un Israël. C'est-à-dire qu'ils doivent se marier ou entre eux ou avec certaines personnes qui ont un certain statut, d'accord, dans le Ham Israël. D'accord? Donc Ruth en réalité ne peut, apparemment, du fait qu'elle vient de Moab, elle ne peut se marier avec personne. Alors pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, alors il faut revenir encore bien en arrière. Vous connaissez l'histoire avec Lot. Lot, qu'est-ce qui va se passer? Lot, c'était le neveu de Avraham. Il y a une dispute entre eux, enfin il peut y avoir une dispute, il y a eu un différend entre Lot et Avraham, et chacun il va partir de son côté. Où est-ce que Lot va partir? Il va partir à Sodome et Gomorre. D'accord? Lot était un rachat, et plutôt que de rester avec Avraham, il va décider de partir à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, vous savez ce que c'était quoi là-bas? Comme son nom l'indique, c'était Sodome et Gomorre. Là-bas, les mœurs des gens étaient, comment on dit, à la panne. Qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu Hashem, il va se mettre en colère contre Sodome et va décider de détruire la ville. Cependant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a Lot. On me dit, Lot c'est un rachat, qui doit aussi mourir avec les autres. Il dit non, le fait de tuer Lot, ça risque de faire de la peine à Avraham Avinu, de faire de la peine à Avraham. Donc, pour ne pas faire de la peine à Avraham, Hashem il va décider de sauver Lot. Donc vous connaissez l'histoire, là-bas, les anges vont venir et ils vont sauver Lot. Lot, il va, après la destruction de Sodome, Lot va se retrouver seul avec ses deux filles. Il va s'enfermer dans une grotte. Pourquoi dans une grotte? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a cru que c'était Apocalypse. Non, il n'y avait plus, c'est la fin du monde, tout a été détruit. Alors il s'enfermait dans une grotte. Il va se retrouver avec ses deux filles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les deux filles, elles vont croire que l'humanité a été détruite. Et elles vont dire, comment on va faire? Faut bien qu'on ait des enfants pour recréer l'humanité. Qu'est-ce qu'elles vont décider? D'avoir des relations avec leur père. D'accord? Et elles vont avoir donc une relation incestueuse. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont saouler leur père et chacun son tour, une nuit d'écart, elles vont aller avec lui. Et les deux vont donner naissance à un enfant. Un, il va s'appeler Moab, et l'autre, il va s'appeler il va s'appeler Ben-Ami. D'accord? Un Moab et un Ben-Ami. Maintenant, Moab et Ben-Ami, ils vont donner naissance à deux peuples. Un, ça va être les Moabites, et le deuxième, ça va être les Ammonites. D'accord? Maintenant, ces deux peuples, ils vont grandir. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Ham Israël va sortir d'Égypte, ils vont vouloir donc traverser des terres pour arriver jusqu'en Israël. Et ils vont demander au peuple de Moab, et de Ammon et Moab, de leur permettre de traverser la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Monoa? Ils vont refuser. Ils disent non, on ne peut pas vous chez vous, on ne veut pas de vous chez nous. Ils vont les empêcher de passer. Qu'est-ce qui va se passer après cela? Alors, Akadosh Baruch Hu, il va les maudire. Hachem, il va les maudire. Et on va dire comme ça, que lo yavo amoni ou moavit beka al Hashem. À cause du fait qu'ils n'ont pas voulu vous laisser passer, vous accueillir avec de l'eau et du pain, ça vous venait à venir à votre rencontre, bien que vous étiez affamé et assoiffé, alors leur punition, elle sera de ne pas pouvoir se lavo bekal, c'est se marier avec un Israël. D'accord ? C'est-à-dire que si un homme, un Moabite ou un Ammonite veut se convertir, il peut se convertir, mais sache qu'il ne pourra pas ni se marier ni avec un Cohen, ni avec un Lévi, ni avec un Israël. Avec qui ? Alors il pourra se marier avec des convertis, il pourra se marier avec des mamzerim, il y a toutes sortes de personnes avec qui il pourra se marier. Aval, avec un Israël, il ne pourra pas se marier. D'accord ? Lo yavo bekal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ruth, d'où elle vient, elle ? Elle vient de Moab, donc apparemment, c'est une Moabite. Elle n'a pas le droit de se remarier. Elle peut se marier avec personne. Avec qui elle va se marier là-bas ? Alors là, Goshi Alom, le Targoum, nous explique que Boaz, il a commencé à parler. Qu'elle a dit, tu es une fille Moabite. Eh bien, sache que vous, les femmes Moabites, contrairement aux hommes Moabites, vous avez, oui, le droit de vous marier avec des Israël. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que toute la Tarana, comment on dit Tarana en français ? Toute la... pas la raison. Bon, toute la... l'argumentation. Bon, tous ceux qui ont été maudits, ce sont uniquement les hommes. Pourquoi ? Parce que, le reproche. On ne reproche qu'aux hommes moabites de ne pas être venus avec de l'eau et avec du pain à l'encontre d'Israël. Pourquoi ? Pourquoi aux hommes et pas aux femmes ? Parce que les femmes, le rôle d'une femme, c'est quoi ? C'est de rester à la maison. D'accord ? Donc on n'a pas demandé à la femme de sortir de sa nature, d'aller faire quelque chose qui est contre sa nature. Les femmes, elles restent à la maison. Par contre, les hommes, eux, oui, ils auraient dû venir vous accueillir avec de l'eau et du pain. Donc tout ce que la Torah, elle interdit aux Moavites de se marier avec Al-Hachem, de rentrer avec Al-Hachem, c'est qui ? C'est les hommes, mais pas les femmes. Les femmes, contre vous, il n'y a aucun reproche. Voilà, c'est un assez reproche. D'accord ? Et donc, Bémet, toi, Ruth, tu peux te marier sans aucun problème avec qui tu veux. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là-bas, il y a marqué qu'il va lui donner à manger. Elle travaille pour lui. Qu'est-ce qu'il va lui donner à manger ? Là-bas, il y a marqué, Razal, ils disent. Qu'est-ce qu'il va donner à manger ? Je suis de toi. De quoi ? Deux gerbes de blé trempées dans du vinaigre. Oui ? Il va donner deux grains de blé trempés dans du vinaigre. Arrête la caméra. Pardon. Il y a une question, qu'est-ce que tu dis ?
C'est pas un petit peu misogyne de dire que les femmes restent à la maison ?
Non, alors le jeune homme pose la question, est-ce que ça ne fait pas un misogyne de dire que les femmes, elles doivent rester à la maison ? Il n'y a pas une niane de misogyne ici. Il y a une niane de... chacun son rôle. Akash Boko Hachem, il a créé l'homme avec certaines qualités, certains potentiels. La femme avec d'autres qualités, d'autres potentiels. Et chacun, il a un rôle. Aujourd'hui, c'est nouveau, on veut inverser les rôles. Les bonnes femmes, elles veulent aller travailler, les bonhommes, ils restent à la maison. C'est pas la nature de la femme, c'est pas une preuve de misogynité, je sais pas comment dire en français. Au contraire, c'est la qualité de la femme d'être à la maison. C'est de... D'accord ? Si l'homme, si Hachem, il a fait l'homme fort, comme ça, viril, fort, c'est parce qu'il a besoin d'aller travailler à l'extérieur, d'aller se défendre. La femme, elle la fait plus faible, justement, afin de rester à la maison. Notre ami Raphaël, il a dit quelque chose de très joli au moment du Raftober. Il dit pas que nous, chacun son rôle. L'homme, il a un rôle, la femme, elle a un rôle. L'homme, comme il a dit, c'est le ministre des affaires extérieures, étrangères. Et la femme, c'est le ministre d'affaires intérieures. Chacun, il a son rôle. Et la femme, elle est là pour s'occuper de ce qui se passe à la maison. Il n'y a pas de... Et justement, toute son honneur à elle, c'est d'être à la maison. Sache un autre truc, moi je te dis un autre truc. Je n'ai pas peur de je le dis, j'ose m'affirmer. Sache que tant que les femmes, elles se... Enfin, attention au mot aussi. Elles se... comportaient comme des femmes, c'est-à-dire elles s'occupaient de leur maison, elles s'occupaient de leurs enfants, elles étaient très heureuses. Lorsqu'elles ont voulu s'émanciper, la libération de la femme, alors là, il a commencé à avoir des problèmes, la femme est devenue un objet. On a commencé à l'utiliser pour toutes sortes de... D'accord, mais compris. D'accord, au contraire, l'honneur de la femme, la qualité de la femme, c'est de... Elle doit s'exprimer à l'intérieur de la femme. D'accord, je ne sais pas si ça répond, mais bon, en tout cas, ce que je pense. Et comme il a dit aussi Raphaël, le rôle du ministre des Affaires... Non, pas étrangère, intérieur. Vous avez un intérieur ? D'accord, le ministre d'Intérieur, il n'est pas moins que celui de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Moi, je sais qu'à la Yeshiva, lorsque arrivait Pessah, alors le Rav, il nous disait, maintenant, chacun, il va... Parce que nous, on étudiait le matin, l'après-midi, on devait aider nos femmes à faire le ménage. Maintenant, vous rentrez à la maison, Et tout ce que votre femme, elle dit, vous dites « Ken Amefaked ». Oui, mon commandant. À l'intérieur, c'est la femme qui commande. C'est elle qui doit gérer la maison. Bon, je peux faire une première chlambaïte, hein, bien sûr. Chaque chose à sa place. D'accord ? Continuons. D'accord ? Maintenant, est-ce que je finis l'histoire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je finis l'histoire, après je reviens un petit peu en arrière. Ruth va retourner chez Naomi et va lui raconter tout ce qui s'est passé. Il y a un homme qui s'appelait Boaz, tout ça. Et il m'a raconté, il était très gentil avec moi, il m'a donné à manger. Et il m'a dit que j'avais le droit de me marier. Ah. Ruth, Naomi, elle entend ça, elle dit, oh, j'ai une idée. J'ai une idée de chidour pour toi. Tu veux te marier ? J'ai un super chidour pour toi. Qui c'est ? Boaz. À part l'âge, vous êtes les deux faits l'un pour l'autre. Pourquoi par l'âge ? Parce que Ruth, il avait quel âge j'avais ? 80 ans, ma petite homme, 80 ans. 400 ans, il avait Ruth, Boaz. Boaz avait 400 ans. Ruth, quel âge elle avait ? 40 ans. À part l'âge, vous êtes les deux faits l'un pour l'autre. D'accord ? Alors, vous lisez après la suite de Ruth. On voit qu'à la fin, ils vont décider de se marier. Il y aura toute une discussion, une marloquette. Est-ce qu'elle a, oui, le droit de se marier, pas le droit de se marier ? Peut-être qu'on reviendra à raconter la suite de l'histoire après. Maintenant, il y a un midrash extraordinaire, vraiment un truc incroyable, qui nous dit comme ça. D'abord la question, qui sont les deux gobelets de Chassadim ? On a dit premier, c'est Ruth, et le deuxième, c'est Boaz. Qu'est-ce qu'il a fait comme recèdre Boaz ? Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a donné à manger.
Qu'est-ce qu'il a donné à manger ? Deux grains, deux gerbes de blé, il lui a donné à manger trempé dans du vinaigre. C'est quoi ça, c'est ce... Alors, c'est un peu plus profond que ça. Alors il y a un midrash extraordinaire qui nous dit comme ça. Je vous le lis en hébreu, oui. Ilou aya yoda reu. Alors attendez, le midrash, avant de parler de Boaz, il va parler de deux autres personnages. Qui sont-ils ? Un, c'est Reuven, le fils de Yaakov. Et le deuxième, c'est qui ? Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, il va parler de Boaz. Alors on va d'abord amener le midrash. Le midrash nous dit, Ilou aya yoda reuven, shakadosh baruchu yichtov alav batora. Si Reuven, il avait su que Hachem allait écrire sur lui. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Vaishma Reuven Vaitselou Miyadav. Que vous savez, lorsque les frères de Yosef ont vendu Yosef, qui c'est qui a essayé de le sauver ? Reuven. Reuven, oui. Alors si Reuven, il avait su que Hachem, dans sa Torah, il allait écrire à son sujet que Reuven l'a sauvé de ses mains, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait pris Yosef sur ses épaules et il aurait emmené jusqu'à son père. Ça, c'est le début du midrash. Ensuite, le midrash, il parle de Aaron. Veilou ayayodea Aaron à Cohen, s'il avait su Aaron que Hachem, il allait écrire sur lui. Veraha ve samer bilibo. Et il t'a vu et il va se réjouir dans son cœur. C'est quoi l'histoire ? Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu va voir le buisson en train de... buisson, comment dire en français ? Buisson ardent. D'accord ? Hachem, là, va se dévoiler à lui et va lui demander d'aller en Égypte pour sauver le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire Moshe ? Il va dire toutes sortes d'arguments pour refuser. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il a dit, non, moi, je peux pas, je suis bègue et je n'arrive pas à parler. Et en plus, il y a mon frère Aaron, alors on voit mon frère Aaron. Hachem, il va s'insister, il va dire, non, c'est toi qui dois y aller. Bon, il y aura toute une dispute entre Aaron, enfin, une dispute. Une discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu, et tous les arguments que Hachem va donner à Moshe pour le convaincre d'aller sauver leur âme Israël, Moshe, il va les repousser les uns après les autres. À la fin, il lui a dit, écoute, si c'est pas toi qui y vas, eh ben, leur âme Israël, il va rester en Égypte, encore en esclave. Alors, où tu vas, où il reste en esclavage ? Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai rien à faire. Si la chose, elle va faire de la peine à mon frère, pourquoi ça fait de la peine à mon frère ? Vous savez pourquoi ? Parce que Aaron, c'était son aîné. D'accord ? Aaron, il avait 3 ans plus que Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe Rabbeinu, lui, il est parti pendant combien ? Pendant 80 ans ? Non, moins 80 ans. Pendant environ une soixantaine d'années. 60 ans. Il est parti donc d'Égypte. Qui c'est qui est resté en Égypte pendant 60 ans et qui s'est occupé du peuple ? C'est Aaron. D'accord ? C'est Aaron qui a supporté la peine de tout leur âme Israël. Donc à qui ça revient normalement, d'après la logique de Moshe Rabbeinu, de sauver Aaron, de sauver leur âme Israël ? Aaron. Qu'est-ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu ? Quoi ? Moi, tu veux m'envoyer ? Ça va faire de la peine à mon frère ? Je veux pas. Ah, ils vont rester à cause de ça en esclavage. Alors, qui reste en esclavage ? À la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? Il dit, non, écoute, calme-toi. sache que Aaron, il est joyeux dans son cœur que c'est toi qui vas venir libérer leur âme Israël. Il a dit à Aaron, il est joyeux dans mon cœur, ça ne lui fait pas de la peine. Alors ok, j'accepte. Alors le Midrash, il dit sur Aaron, si Aaron avait su qu'on écrirait sur lui qu'il était joyeux dans son cœur, alors qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait venu accueillir Moshe Rabbeinu, Betoumim, il serait venu l'accueillir avec un orchestre, avec la fanfare, il serait venu l'accueillir. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. D'accord? Ça c'est le deuxième, c'est Aaron. Troisième, c'est qui? Boaz. Voilà. Alors on nous dit le Midrash sur Boaz. Il ou Ayayodé à Boaz, chaque jour, Yir Tovalav. Si Boaz avait su qu'on écrirait à son sujet, Vaïtzabet la Keli, Kali, Vatochal, Vatishba, Vatoar, je vous lis en français. Le verset il est là, voilà. À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche-toi et mange de nos aliments. Tu peux aussi tremper ton pain dans le vinaigre. C'est quoi? S'il lui a donné à manger du pain, c'est pas du pain, des épis de blé à tremper dans le vinaigre. Si Boaz avait su qu'on écrirait ça à son sujet, Ayama Hilota Agali Mefutamim. Il aurait donné à manger pas de petits grains de blé. Qu'est-ce qu'il aurait donné à manger? Des veaux engraissés, il aurait donné, il aurait fait une seouda de roi. D'accord? Ça c'est le Midrash. Bon, le Midrash il est un peu obscur, on ne comprend pas très bien que ça veut dire quoi. S'ils avaient su qu'on allait leur montrer de l'honneur dans la Torah, on allait écrire sur eux à une. Alors ils auraient fait plus. Ils disent quoi? On parle ici d'hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques, chez eux, quand ils savent qu'il n'y a pas de journaliste ou il n'y a personne, alors ils s'en fichent, ils viennent discrètement. Mais lorsqu'on leur dit, vous savez quoi, il y a la télé, il y a la radio, il y a la presse, oh, alors là, ils viennent en fanfare, avec les voitures, ils font beaucoup de bruit, beaucoup de machin, beaucoup de tralala, d'accord? Parce qu'un homme politique, toute son existence, c'est de se faire voir, de se montrer, qu'il est un homme important, d'accord? Donc là, si ça avait, on parlait d'homme politique, on aurait compris qu'ils auraient fait plus, si on aurait marqué une marque d'honneur aussi grande. Mais là, on parle de qui? On parle de Aaron. On parle de Réhouven, on parle de Boaz, on parle de Tzadikim. Est-ce que les Tzadikim, eux, ils ont besoin de publicité? Ils ont besoin qu'on leur fasse tout un tralala sur eux? Oui. L'explication de ce Midrash, elle est comme ça. D'accord, donc le Rav Zvi Kochowalski, il nous donne la réponse, l'explication de ce Midrash. Alors on dit comme ça. Si, donc on a parlé de qui? On a parlé de Boaz, on a parlé de Aaron, on a parlé de Réhouven. Bon, on va pas rentrer trop de détails, sinon on va pas en finir. Si maintenant on se tournait vers Boaz et dis-moi Boaz, quel âge tu as vécu? 400 ans. 400 ans, c'est une vie intéressante, hein, tu as pu faire des choses dans ta vie. Dis-moi, tu peux pas nous faire une petite biographie, nous raconter un peu qu'est-ce que tu as fait pendant 400 ans? Qu'est-ce qu'il nous aurait raconté Boaz? Qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Dis voilà, bah, quand j'étais petit, j'étais à l'Yeshiva, j'ai étudié, après je suis parti à Yeshiva Ktana et ensuite je suis parti dans Yeshiva Gdola et là-bas j'étais un étudiant plutôt brillant. J'ai étudié, après, bon, je me suis marié. Vous savez que, bon, un autre détail, on racontera après. Je me suis marié, et ensuite, bah, je suis devenu rav, et j'ai ouvert une yeshiva, et j'ai eu plein d'élèves. Et là, alors, j'ai fait plein de choses. Le Ram Israël, il y avait la famine. C'est moi qui me suis occupé du Ram Israël pendant beaucoup de temps. Et j'ai fait toutes sortes de décrets. C'est moi qui ai siégé au tribunal là-bas. D'accord? Il aurait raconté toutes sortes de grands détails de sa vie. Est-ce qu'il aurait dit, attendez, excusez-moi, il y a encore un petit détail que je ne vous ai pas dit. Un jour, il y a une Moabite qui est venue sur mon champ et je lui ai donné à manger, quoi? Je lui ai donné à manger deux petites gerbes de blé trempées dans du vinaigre. Est-ce que Boaz, il aurait écrit ça dans son curriculum vitae, dans sa biographie? Non, c'est un détail complètement anodin. Si on avait demandé à Aaron à Cohen, dis-moi Aaron à Cohen, quel âge tu as vécu toi? 123 ans? Qu'est-ce que tu as fait pendant 123 ans? Oh, qu'est-ce que j'ai fait pendant 123 ans? Oh là là, déjà, vous savez que moi j'habitais en Égypte à l'époque de l'esclavage, et j'ai dû supporter l'esclavage avec tout leur âme Israël, et j'ai fait beaucoup de Je les ai renforcés, et après quand on est sorti d'Égypte, alors j'étais connu Gadol, et lorsqu'il y avait des problèmes de Shlombaït, vous savez les problèmes de Shlombaït, des pommes de comment dit Shlombaït en français? De paix, non, de paix des ménages, non, c'est quand il n'y a pas de paix au ménage. D'accord, le problème de coupe, voilà, moi j'allais, vous savez que lorsque Aaron, il est décédé, marchait derrière, enfin, lui il est parti mourir Aaron, vous savez, il est parti, il est entré dans la grotte, il s'est allongé, il est En tout cas, tout leur ami Israël est venu l'accompagner. Lorsqu'il est, il marchait, il y a eu combien de, il y avait, comment on dit, 7000, 70 000, je crois, ouais, 70 000. 70 000 enfants qui suivaient le cortège, qui s'appelait comment, vous savez comment ils s'appelaient? 70 000 petits Aaron. Pourquoi? C'était 70 000 enfants qui étaient nés de, grâce à la, le fait qu'il avait réconcilié des parents ensemble. D'accord? Donc il a fait du travail Aaron. Plein de choses extraordinaires pendant toute sa vie, il a fait Aaron. D'accord, il aurait dit ça dans son biographie. Est-ce qu'il aurait dit, attendez, il y a un petit détail encore. Lorsque Moshe Rabbeinu, on lui a annoncé qu'il allait sauver leur âme Israël, je me suis réjoui dans mon cœur. Est-ce qu'il aurait écrit ce petit détail dans son curriculum vitae? D'accord, petit détail complètement anodin. Apparemment, il n'aurait pas besoin d'écrire une chose pareille. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire Aaron, ça veut dire que Aaron, donc comme il a dit le Midrash, s'il avait su qu'on écrirait sur lui qu'il s'est réjoui dans son cœur, alors il serait sorti avec les colliers. Vous savez, par rapport à ce qu'on a expliqué, c'est qu'apparemment, ce petit détail dans sa vie, c'est un détail complètement anodin. Alors, si on répète, je l'ai dit, mais je le répète, lorsqu'il y a eu la discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem, lorsque Hachem a demandé à Moshe d'aller libérer leur âme Israël, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il dit, je peux pas, moi, je dois parler devant Pharaon. Moi, j'ai cavé de paix, j'ai du mal à parler, j'arrive pas, j'ai pas la parole facile. Et donc, il va y avoir toute une discussion entre Moshe et Hachem, il va insister, il va y avoir toutes sortes d'arguments, il va le pousser. À la fin, qu'est-ce qu'il va dire Moshe? Il dit, écoute, moi, je ne veux pas aller libérer le peuple. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui choisis comme libérateur, ça va faire de la peine à mon frère Aaron. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il a dit, si toi, tu vas pas, alors il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de libération, et ils resteront en esclavage. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Eh bien, tant pis qu'il reste en esclavage. Moi, je ne veux pas faire de la peine à mon frère. À la fin, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit, écoute, sache que ton frère Aaron, il n'est pas triste que c'est toi qui as été choisi. Au contraire, il se réjouit dans son cœur. Moi, je te témoigne que Aaron est joyeux et heureux que c'est toi qui as été choisi. Il dit, ah, il est heureux. Alors, ok, je vais, moi, aller libérer leur âme Israël. Donc, le Rav nous dit, lorsque Aaron, il s'est réjoui dans son cœur, apparemment, ce petit détail, c'est un détail complètement anodin. Mais si Aaron, il avait su que de cette petite joie qu'il a eue dans son cœur allait naître la Géoula, grâce à cela, alors Hachem, il allait décider d'envoyer, enfin, Moshe Rabbeinu allait accepter d'aller venir libérer leur âme Israël. Et donc, grâce à cela, leur âme Israël, il allait être libéré. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait, Aaron? Est-ce qu'il serait simplement réjoui? Dis quoi, de ma joie dépend toute la libération. Alors, je ne vais pas simplement me réjouir, je vais faire une grande fête. Sachez, les amis, que le fait que je suis content que c'est mon frère qui est choisi, alors c'est grâce à ça qu'on va être libéré. Allez, venez, on fait la fête. Il aurait fait une fête pendant une semaine. Oui. De la même façon, Boaz. D'accord? Boaz, il a marqué qu'il lui a donné. Où est-ce qu'on a vu qu'on a dit qu'il lui a donné du. Il a fait du chesed avec Ruth. Il lui a donné à manger. C'est quoi ce manger? C'est de petites. C'est de petits. D'accord? Des petits grains de blé. Lorsqu'elle va venir raconter à Naomi tout ce qui s'est passé, Naomi, elle va voir, ah, on voit que Boaz, c'est un homme bon, c'est un homme qui veut ton bien, tu vois, il t'a donné à manger, il veut ton bien, il cherche à t'aider. Oh, j'ai une idée. Vous allez faire un chidour ensemble, vous allez vous marier. D'accord? Et grâce à cela, Boaz, Bémet, il s'est marié avec Ruth. D'accord? Alors vous allez me dire, et alors? Il s'est marié avec Ruth. Alors là, il faut continuer la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Boaz, il va donc se marier avec Ruth. Il y aura toute une discussion. Vous savez qu'il y en a qui avaient dit qu'on n'avait pas le droit de se marier avec les Moabites. Et le seul qui disait ça, c'était Boaz. Ils vont se marier ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer le lendemain du mariage? Boaz va mourir. Il avait 400 ans. Bon, il avait 400 ans. Qu'est-ce qu'ils vont dire les moqueurs de la génération? Ils disent, ah, t'as vu, hein, il a fait quelque chose de péché. Il a fait quelque chose d'interdit. Il s'est marié avec une Moabite. Bah, Dieu, il a puni. D'accord, les gens, ils aiment bien expliquer les phénomènes qui se passent. En tout cas, sachez qu'ils se sont trompés. Qu'est-ce qui va se passer? Ruth, elle va tomber enceinte. Et donc, elle va donner naissance à qui? À, alors on voit ici dans le verset, à Oved. Oved, il va donner naissance à qui, lui? À qui? Ishaï. Qui est Ishaï? Le père de David Améler. Qui est David Améler? Alors David Ameller, si vous voulez, Bézard Hachem, demain je vous parle de David Ameller en long, en large, en travers. Il y a des choses extraordinaires à raconter sur David Ameller. Même cette histoire-là avec Ishaï, elle est magnifique. Bon, juste pour résumer pour le cours maintenant, elle va donner sens à David Ameller. Qu'est-ce que David Ameller, il va faire? Mis à part que David Ameller, il va devenir le plus grand roi que Israël ait connu, d'accord, il va écrire les Tehillim. Écrire les Tehillim, c'est faire Tehillim. D'accord, messieurs? Donc, qui c'est qui va sortir de Boaz? Qui va sortir de Boaz? David Ameller. Et donc, le Rav, il nous explique, c'est ça que ça veut dire, que si Boaz, il avait su que le fait de donner deux petits gerbes de blé à Ruth, d'accord, on allait écrire sur lui, allait sortir de cette chose-là, David Ameller, quoi, de ces deux petits gerbes de blé, va sortir David Ameller. Mais ce n'est pas du blé qu'il lui aurait donné à manger, comme il a dit. Ce sont des veaux engraissés. D'accord, si de ce petit acte de générosité va sortir une chose aussi extraordinaire, mais j'aurais fait une fête, j'aurais fait un... Qu'est-ce que je n'aurais pas fait à route? Oui. D'accord, maintenant revenons à notre sujet essentiel. Il faut savoir que... Donc on a vu ici deux gobelets d'Alim. Le premier c'est qui? Route. Et le deuxième c'est Boaz. Si on pose une question, en réalité, Ruth et Boaz, à qui ils ont fait du chesed? À qui ils ont fait du bien? Alors un, il va dire l'un à l'autre, enfin non, Ruth à Naomi et Boaz à Ruth. C'est ça que tu vas dire, Alexis? Alexis est là, vous savez, il est là. Les amis de Lyon, dites bonjour Alexis. Vénitieux, pardon. Pas du tout, messieurs, à qui ils ont fait du bien? Vous savez à qui ils ont fait du bien en réalité? Ils ont fait du bien à eux-mêmes. Les premiers qui ont été... Ils ont été les héritiers de ce bien qu'ils ont fait, c'est eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Ruth d'abord, vous savez que Ruth, elle ne va pas, elle va vivre très 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 vieille. Jusqu'à quand elle va vivre? Jusqu'à la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'elle va voir son fils et son petit-fils Ishaï et son arrière-petit-fils David Ameller, d'accord? Et son arrière-arrière-petit-fils Shlomo Ameller qui va construire le Beth Amikdash. D'accord? Grâce à quoi elle va voir toutes ces choses-là? Grâce à quoi elle va avoir, Ruth, un tel héritage, une telle descendance, une descendance extraordinaire? Vous rendez compte, la descendance de David Ameller. Plus que ça, c'est elle qui va donner naissance au Mashiach. D'accord, Ruth, c'est elle qui va descendre au Mashiach. Grâce à quoi? Grâce à un petit acte de bonté qu'elle va faire avec sa belle-mère, avec Naomi. D'accord? Donc qui c'est en réalité qui a été le plus gagnant de cet acte de générosité? C'est Naomi ou c'est elle? C'est elle et des millions de fois plus. Boaz, vous savez, Boaz, il avait... Combien d'enfants il avait, Boaz, vous savez? Boaz, il a eu 60 enfants. Qu'est-ce qui sont arrivés à ces 60 enfants? Ce qui est arrivé, ils sont tous morts. Pourquoi ils sont tous morts? Razal, il nous raconte, c'est un peu violent, ne me posez pas de questions, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu violent apparemment, mais... Parce qu'à cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelait Manoar. C'est que c'est Manoar? Manoar, le père de Samson, de Shimshon. D'accord, Shimshon, Gibor Shimshon, d'accord, celui qui s'est battu contre les Philistins d'époque. Son père, c'était Manoar. Manoar, lui, n'avait pas d'enfant. Pas d'enfant pendant des années, il n'a pas eu d'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Boaz va marier ses fils, il ne va pas inviter à ses mariages Manoar. Pourquoi il ne va pas l'inviter? Non, c'est comme lui, il n'avait pas d'enfant, il ne voulait pas le mettre mal à l'aise, genre moi je t'invite à mes mariages, tu me fais des cadeaux, et moi je n'aurai jamais la possibilité de te les rendre. Donc il y avait comme ça une certaine gêne. Et à cause de cela, il ne va l'inviter à aucun mariage. Malgré tout, on voit que Hachem va lui en vouloir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces 60 enfants, après leur mariage, ils vont tous mourir. Les uns après les autres. Donc Boaz, Bémet, il s'est retrouvé sans aucun héritier. Qui c'est qui va dire Kalish pour lui? Personne. Personne va dire. Il va mourir comme un vieux monsieur qui n'a pas d'enfant, qui n'a personne, qui va élever son âme après sa mort. Qu'est-ce qui va se passer? Boaz, il va faire du chesed avec qui? Avec Ruth. Un petit chesed, d'accord? Il va lui donner de petits grains de blé, il va se marier avec elle, d'accord? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Ah, Boaz, toi, tu n'avais pas qui va dire, Kadish pour toi, qui c'est qui va élever son âme? Et bien, tu sais, grâce à cette petite acte de chesed que tu as fait avec Ruth, tu sais qui c'est qui va élever ton âme? C'est tout leur âme Israël. Quand? Tout leur âme Israël lorsqu'il va lire le Tehillim. Par quel mérite? Leur âme Israël a reçu ce livre de Tehillim, a reçu David, a reçu de Tehillim, grâce à qui? Grâce à ton mérite, à toi Boaz. D'accord? Donc si toi Boaz, tu n'avais pas fait ce chesed, qu'est-ce que leur âme Israël aurait perdu? Vous imaginez qu'on aurait passé toute l'exil, tout cet exil sur le livre de Télim. Vous savez comment le livre de Télim, il est cher à Am Israël. Combien de larmes ils ont été versées dans le Télim, combien de prières ont été exaucées grâce à ce Télim-là. Grâce à qui tout ça? Grâce à toi, Boaz. Donc le premier qui a reçu ce chesed, cette bienfaisance, c'est toi, Boaz. D'accord? Maintenant, Chazal nous dit que comment se sauver des révélés, les douleurs de l'enfant, les douleurs d'enfant majeur. En fait, on a fait un petit détour, un grand détour. Pourquoi? À quoi il servait ce détour? Pour nous apprendre qu'en réalité, le fait de faire du chesed, on n'est jamais perdant de faire du chesed. Lorsqu'on donne aux autres, d'accord, on se donne à soi-même. Le fait d'aider les autres, le premier qui est gagnant, c'est moi-même. Celui qui veut, comme nous dit Chazal, celui qui veut être protégé donc des douleurs de l'enfantement du Mashiach, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner sans cesse à l'autre. Et par ce mérite, lui-même recevra. Et la première chose qu'il recevra, c'est de se voir nourrir, de se voir donner de la grâce et d'avoir un héritage sans fin. D'accord? Donc le premier, lorsqu'il donne, on a dit qu'il reçoit. Je vous raconte une petite histoire vite fait pour finir. J'aurais dû faire plus le lien entre la fin des temps et ça, mais sachez que Chazal nous dit, le fait de faire du chesed, c'est ça qui va nous sauver des douleurs de l'enfantement du Mashiach. Vous voulez être sauvé du Mashiach, vous voulez être sauvé pas du Mashiach, au contraire, on veut être sauvé par le Mashiach. Mais des douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qu'il faut faire? Gomel d'Alim, il faut étudier la Torah, d'accord? À tous les jeunes, il faut dire, venir étudier à la Yeshiva. Celui qui est moins jeune alors, dans son quartier, qu'il a étudié, d'accord? C'est la seule façon d'être sauvé de ces douleurs-là. La deuxième chose, c'est Gomel d'Alim. Malheureusement, c'est terrible ce qui s'est passé cette année. Vous savez ce qui s'est passé cette année? Il y a eu plus de 100 orphelins. 100 orphelins. Il y a des pères qui sont morts. Enfin, certainement beaucoup plus, ça va. Des événements tragiques en Eretz Israël. Il y en a eu environ une dizaine qui ont laissé chacun 5, 6, 7, 8, 10 orphelins. Il y a une centaine d'orphelins cette année. Pourquoi est-ce que HM, il nous fait ça? Pourquoi il nous envoie des orphelins? Une des explications, tout simplement, c'est afin de nous motiver à nous de donner. D'accord, le premier qui est gagnant lorsqu'il donne, c'est qui? C'est celui qui donne. Et Hachem, malheureusement, il est obligé de nous envoyer des choses aussi horribles afin de nous motiver à donner. Je vous raconte une petite histoire afin de sortir avec un petit sourire, mais une histoire qui est... Il y a un jour, il y a un homme qui était sur son lit de mort, comme ça, qui a appelé tous ses fils. Bon, les fils sont tous venus, ils étaient tous contents. Il dit, oh, notre père, il va distribuer l'héritage. Lorsqu'il est arrivé, pas du tout. Il dit, écoutez les enfants, voilà, je vais bientôt mourir. Je vous dis, voilà, dans le coffre-fort, ils étaient tous comme ça, il y a dans le coffre-fort beaucoup, beaucoup d'argent, plein de liasses, d'accord, de toutes les monnaies étrangères. Il y a des dollars, il y a des euros, il y a des yens, il y a des livres sterling, il y a des shekels, d'accord, il y a toutes sortes, il y a des louis d'or, il y a toutes sortes de choses. Et il y a aussi un diamant qui est entouré d'un petit papier. Je veux que lorsque je vais mourir, vous allez m'enterrer avec tout cet argent-là. D'accord? C'est le Rav Etzraïm qui raconte ça. Bon, les enfants, le père, il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Il s'est dit que quand il va arriver au Lamaba, il veut être sûr au moins d'avoir de quoi négocier. D'accord? Si le dollar, ça ne marche pas, alors le niveau 5, ça marchera. C'est pas le... Et même le monsieur, il est mort, le jour d'enterrement, ils l'ont enterré, donc avec toutes les devises étrangères, et avec le diamant qui était entouré dans un petit papier. Tov, il est arrivé là-bas, il faisait très 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 chaud, à côté du Guéhinnom là, très très chaud. Il a vu un stand de boissons, il s'approche, il dit, je peux avoir un coca s'il vous plaît? Et le type, il dit, oui, mais vous avez de quoi payer? Il a dit, oui, si vous voulez. Ici, sûrement les dollars, c'est international, les dollars, ça doit marcher. Il sort une liasse de dollars, il dit, combien je vous dois? Il regarde, il dit, c'est quoi ça? Il dit, non, ça marche pas ça. Il dit, mais dollars, ça ne marche pas. Il dit, bon, peut-être que ici c'est un européen, machin, l'Europe, l'euro. Bon, il sort des euros. L'euro, non, ça ne marche pas. Les yens, non plus. Livre sterling, non. Ah, il dit, c'est des juifs. Ça doit être le shekel qui marche ici. Il sort les shekels. Il dit, non, ça ne marche pas non plus, ça. Il dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Ah, il dit, ah, troc, le diamant. Il prend le petit papier, il jette le petit papier, il prend le diamant, il dit, voilà, un diamant. Regarde, il dit, non, ça ne vaut rien, ça non plus ici. Alors le type est désespéré. Après l'ange, il regarde, il dit, c'est quoi ça le petit papier là? Le petit papier, montrez-moi. Ah oui, ça on accepte. C'est quoi ce petit papier? Un jour, il y a un type qui est venu, il lui a demandé la tzedaka pour une yeshiva. Oui, non, à la fin, il lui a donné comme ça 5 balles. Et qu'est-ce qu'il lui a fait le machin? Il a fait un reçu. un reçu qu'il a donné 5 francs au Dhaka. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le papier, il l'a mis dans la poche, il l'a gardé avec ce papier, il a entouré le diamant. Il a dit ça, ça marche ici. D'accord? Après 120 ans, d'accord? Tout notre argent, tous nos biens, tous nos... Hein, qui servira? La seule chose qui nous restera, ce sont nos maracines Tovi. Une histoire que j'ai écrite, je la répète quand même. Un jour, le petit garçon, il allait avec son papa, d'accord? Ils allaient dans leur papa, ils ont acheté 5 petits pains. 5 petits pains. Et le papa, il dit à son petit garçon, à son petit Moïchele, dit Moïchele, combien de pains avons-nous? Elle dit, ben on a 1, 2, 3, 4, 5 pains. Il dit, bravo Moïchele, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pauvre qui arrive, il dit, s'il vous plaît, j'ai faim, donnez-moi à manger. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il ouvre le sac, il lui donne 2 petits pains. Ensuite, le père, il lui dit, dis-moi Moïchele, combien de pains il nous reste? Combien de pains avons-nous? Alors, il dit, il y en avait 5, t'en as donné 2, il reste 3 petits pains. Oui, c'est ça? 5 moins 2 égale 3. Qu'est-ce qu'il dit? Papa dit non. Non, Moïchele. Il dit, comment papa? Regarde, 1, 2, 3. Il dit, non, Moïchele. Tu ne crois pas ce que je te dis, Moïchele? Il dit, je te demande pas combien de pain il nous reste dans le sac. Je te demande combien de pain il nous reste. Alors, le petit garçon ne comprenait pas. Alors, le père lui explique, il dit, poussez 3 petits pains. Encore une demi-heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va les engloutir, on va les manger. Où est-ce qu'ils vont être? Ils vont disparaître. Par contre, les 2 pains qu'on aura donnés à ce pauvre-là, ces 2 pains-là, eux, ils vont nous rester pour l'éternité. D'accord? Mais maître, ces 2 petits pains. Et donc, chaque pièce qu'on va donner, chaque mitzvah qu'on va faire, chaque pièce qu'on a, tzedaka qu'on va donner, c'est ça qui va nous rester pour l'éternité. C'est le seul mérite qui nous restera pour l'éternité. Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse.